Bienvenue à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui Laurent Debrier, qui est donc directeur du Centre d'études politiques, économiques et sociales du Centre démocrate humaniste et professeur aux facultés universitaires de Namur. Nous le recevons pour parler aujourd'hui d'une possible alternative au libéralisme. Alors, comme vous le savez, le sujet de notre cycle de conférences, c'est le socialisme. On est parti d'un constat d'une crise idéologique du socialisme, donc d'une crise de ce qui était censé être la principale alternative au libéralisme. Eh bien, nous allons voir avec Laurent Debrier s'il a une autre proposition d'alternative à nous faire. Et puis, peut-être on en discutera davantage dans la séance de questions-réponses qui suivra. Comme nous l'avons fait avec le socialisme, nous avons vu que c'était la réalité contemporaine qui mettait en crise le pensable socialiste. Nous verrons si la proposition que nous fait Laurent Debrier rejoint également cette réalité contemporaine, et elle répond, contrairement au socialisme, à la réalité dans laquelle nous vivons. Voilà, je lui passe tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation d'abord. Mon exposé va être articulé autour de deux thèses. La première qui touche au socialisme et sur son constat de crise, j'aurais envie de dire qu'à mon sens, le socialisme est mort. Dans le concept central, enfin classique de socialisme en tout cas, et il est mort pour moi en quatre dates. Je veux dire, sans doute qu'il a contracté au milieu des années 70, disons 74 pour le premier choc pétrolier. Il a contracté une maladie incurable, constatée sans doute en 83 avec l'échec du plan de relance du gouvernement Mitterrand. Et puis il est décédé en 89, sans doute, hein, c'est classiquement avec la chute du mur de Berlin, et enterré en 91 avec la fin de l'URSS et de la capacité de représentation du monde dual que signifiait l'URSS et la représentation du monde comme articulée autour des deux blocs, quelles que soient les différences importantes qu'il pouvait y avoir entre le socialisme dans la version démocratique qui s'est développée en Europe occidentale. Et l'évolution du communisme et du socialisme révolutionnaire vécu au sein du projet de l'URSS. Mais si ce socialisme est mort, on ne peut pas en dire autant forcément de la référence au socialisme, on ne peut pas en dire autant notamment des partis socialistes, hein, certainement pas du côté belge francophone par exemple, mais si je pense qu'il est mort, c'est parce que j'ai le sentiment, et la thèse n'est pas très originale, qu'il s'est transformé en un libéralisme de gauche. Et donc la première thèse que je voudrais développer, c'est en quoi on peut soutenir que le socialisme s'est transformé en un libéralisme de gauche, et comment cela s'exprime pour moi de manière paradigmatique dans l'évolution du modèle social, de ce qu'on a appelé chez nous le passage de l'État-providence à l'État social actif. La deuxième thèse, c'est que, comme annoncé dans la présentation, c'est que je suis personnellement convaincu qu'il faut procéder à un dépassement du libéralisme, en ce compris du libéralisme de gauche. Et que la crise financière en est d'ailleurs une illustration. De même que l'échec relatif, me semble-t-il, du modèle de l'État social actif. Mais s'il faut procéder à un dépassement du libéralisme, je ne crois pas que cela passe par un renouveau du socialisme, une renaissance du socialisme, même s'il y a un certain renouveau, en tout cas rhétorique, il y a des tentatives de revenir à une pensée plus classiquement socialiste, me semble-t-il, dans le champ social actuel. Donc je ne pense pas, je reprends ma thèse, je ne pense pas que ce dépassement du libéralisme passe par un renouveau du socialisme, mais je pense plutôt au contraire que cela demande de rompre avec un certain nombre de thèses partagées tant par le libéralisme que par le socialisme. Alors, le livre en question sur lequel je vais m'appuyer, qui est le sens du politique que j'ai publié il y a un an, est un livre à mi-chemin entre le livre académique et l'essai politique, correspondant en définitive à mes deux casquettes professionnelles. Bon, je crois que c'est d'abord un livre académique, mais qui a la volonté de s'inscrire dans le champ politique, en se revendiquant donc d'une référence particulière, l'humanisme démocratique, en essayant en essayant de situer l'humanisme démocratique dans le champ des débats académiques, en tout cas en philosophie politique. Je pense que malgré la volonté de l'inscrire dans le champ politique par cette référence, il reste un écart de toute façon très très important entre une réflexion philosophique de ce type sur l'humanisme démocratique et le positionnement d'un parti politique particulier. Ce n'est pas propre au parti pour lequel je travaille, je crois que c'est propre à tout type de parti, entre la doctrine, souvent d'ailleurs implicite, défendu par un parti politique et son positionnement au sein de débats concrets, il existe un long chemin qui s'explique déjà par la grande diversité des opinions qu'il peut exercer au sein d'un parti politique, qui s'explique aussi par les contraintes pratiques. Nous pensons dans un gouvernement de coalition dans lequel nous vivons aux différents échelons du pouvoir en Belgique, la nécessité de trouver des coalitions pèse au moins autant que la doctrine d'un parti dans les prises de position qu'il adopte. Puis, nous pensons également aux enjeux stratégiques. Ce n'est pas aujourd'hui en Belgique qu'il faut vous expliquer longuement l'importance des enjeux stratégiques dans le positionnement des partis politiques, les enjeux médiatiques, et voire les enjeux personnels. Donc, tout cela simplement pour expliquer que je pense que il n'est pas possible de faire une déduction, on peut de temps en temps illustrer ce qui nous semble être la doctrine d'un parti politique ou la philosophie politique sous-jacente à l'inspiration politique portée par un parti. Et donc, pas possible de faire une déduction immédiate entre cette philosophie politique et un positionnement. Il y a énormément d'interférences qui s'expliquent par la diversité des enjeux dont je viens de parler. Cette nuance faite, il me semble néanmoins qu'il y a dans l'humanisme démocratique, l'humanisme démocratique ne peut avoir une véritable spécificité, ne peut avoir une véritable originalité, non seulement dans le champ politique belge, mais dans le champ politique de manière générale, dans le champ de la philosophie politique plus globalement, que s'il entend concrétiser la thèse qu'il s'agit de procéder à un dépassement du libéralisme. Alors, un mot simplement sur cette idée que signifie le dépassement du libéralisme, parce que ce n'est pas simplement rompre avec le libéralisme. J'entends dépassement peut-être au sens hégélien. Ça veut dire à la fois une conviction que l'avènement du libéralisme politique a représenté un progrès. Donc, il ne s'agit pas de revenir du coup à un an de ça du libéralisme, d'estimer qu'on a fait fausse route en passant par un stade qui serait le stade libéral. Je pense que globalement, le libéralisme politique a apporté sa domination non seulement dans le champ politique, puisque la plupart, et je vais essayer de le suggérer pour les partis socialistes, la plupart des partis, en tout cas des partis démocratiques, sont pour moi des partis libéraux. Sa domination dans le champ politique, mais aussi dans le champ social, dans les représentations du politique véhiculées même inconsciemment par les citoyens. Et donc cet avènement a représenté pour moi un progrès social, ne fût-ce que par l'émancipation qu'il a permis par rapport aux normes traditionnelles, au conformisme social, l'émancipation par un certain nombre de par rapport à une logique de déterminisme social. Je pense aussi à une certaine efficacité économique qui, au-delà des questions de répartition en tout cas, a fait ses preuves. Je pense par contre que le libéralisme politique importe de le dépasser parce qu'il est porteur d'un certain nombre d'insuffisances, et je reviens notamment aux questions de répartition, ça incontestablement, mais pas seulement aux questions de répartition, qui ont tendance justement à nourrir des phénomènes réactionnaires, pour sortir de la question de la répartition, notamment sur le plan identitaire, de la formation des identités collectives. La conviction que l'individualisme qui est inhérent à la logique libérale, si elle a permis justement une émancipation par rapport aux normes sociales et un certain poids du conformisme social, a par contre fragilisé terriblement le besoin aussi d'identité collective, le besoin de construction d'un nous, le besoin de cohésion sociale. Et que ce manque, on pourra peut-être dans le débat revenir sur des dossiers concrets, que je pense tant à la question du foulard, mais je pense certainement aussi à nos problèmes belgo-belges et à l'émergence de discours nationalistes basés justement sur des identités fortes, des identités également fermées. C'est justement, me semble-t-il, par un jeu de thèse-antithèse, les insuffisances du libéralisme, son incapacité à penser un mode démocratique de construction des identités qui, en creux, favorise l'émergence de ces phénomènes réactionnaires. Et dès lors, s'il s'agit de dépasser le libéralisme, et notamment de parvenir à remettre en chantier des questions comme la définition de valeurs partagées, d'une conception du bien partagée collectivement, la question de l'identité collective, s'il faut les remettre en chantier, ce n'est pas du tout pour redéfendre une position opposée au libéralisme, c'est au contraire pour poursuivre le mouvement de progrès social qu'a signifié pour moi le libéralisme. Mais si on ne procède pas aujourd'hui à un dépassement du libéralisme, on va déconstruire les acquis qu'a signifié le moment libéral. La crise, me semble-t-il, est, au-delà des questions d'identité dont je viens de parler, la crise économique, la crise financière, me paraît d'ailleurs être une illustration de la nécessité de dépasser le libéralisme, et j'insiste, de dépasser le libéralisme et pas seulement le néolibéralisme. Comme j'y reviendrai dans ma lecture de la crise un peu plus tard dans l'exposé, je pense que le fondement de cette crise n'est pas simplement la question de la dérégulation néolibérale, mais au contraire, pour faire très court, j'y reviendrai, mais au contraire, l'individualisme moral sous-jacent au libéralisme politique. Et donc, on se tromperait, et je pense que le socialisme, ou la lecture socialiste de la crise est sur ce point insuffisante, on se tromperait en voyant dans la source de la crise uniquement un problème de régulation, de réglementation des marchés. Il y a quelque chose de plus profond qui relève de la philosophie morale en définitive. Donc, dans cette introduction, il y avait déjà une thèse implicite, donc que la philosophie politique dominante aujourd'hui est le libéralisme politique, et dominante, c'est à la fois dans le champ académique, à la fois dans les partis politiques de gauche comme de droite, mais à la fois aussi dans la société civile. Donc, lorsque je parle ainsi du libéralisme politique, je vais quand même essayer de définir rapidement ce concept pour la bonne compréhension du reste de l'exposé. Il faut en tout cas, dissocié du libéralisme économique. Le libéralisme politique est d'une manière ou d'une autre toujours lié à une forme d'économie de marché, mais ça peut être une économie de marché assez fortement encadrée, je le montrerai dans ce que j'appelle le libéralisme de gauche, qui est la forme d'ailleurs dominante de libéralisme dans le cadre académique, dont la figure de référence la plus connue ou la centrale est celle de John Rawls, qui est le philosophe politique incontournable aujourd'hui, celui par rapport auquel on ne peut pas ne pas se positionner lorsqu'on fait de la philosophie politique, que ce soit de manière favorable ou de manière critique. Donc, c'est le détour indispensable en philosophie politique aujourd'hui. Et donc, ce libéralisme politique, j'insiste, doit être dissocié du libéralisme économique, doit être dissocié de ce que nous appelons, nous, dans le cadre spécifique du champ politique belge, les partis libéraux. Il suffit de penser qu'être un libéral dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier, c'est être plutôt l'aile gauche des démocrates. Donc, être un libéral aux États-Unis, c'est être clairement situé à gauche. Ça vous situe la distinction de concept entre la compréhension courante que l'on a du libéralisme, de ce que représente le libéralisme dans le champ sociopolitique belge, et la référence au libéralisme politique, tant en philosophie politique que dans le champ sociopolitique plus large que la seule Belgique. En fait, ce libéralisme politique, tel que je l'entends, repose, à mon sens, essentiellement sur quatre principes. Le premier, c'est la conviction que le rôle du politique est d'être là avec comme fonction première de préserver la liberté individuelle et une conception, je vais aller plus loin, une conception particulière de ce qu'est la liberté individuelle. C'est fondamentalement l'idée que l'État est là pour rendre la société juste, pour assurer une juste coexistence des individus au sein de la société. Alors, une juste coexistence, ça signifie premièrement, et c'est là l'individualisme sous-jacent, qui est le deuxième principe du libéralisme politique, ça signifie qu'on conçoit que le champ social comme étant composé d'un ensemble d'individus qui existent indépendamment de leur inscription dans le collectif, indépendamment de l'inscription dans le champ social. Mais les individus doivent, il se fait que les individus coexistent au sein d'un même espace, et qu'il faut dès lors penser comment gérer cette coexistence d'individus au sein d'un même espace, confronté notamment à une rareté des ressources. Et donc la juste coexistence vise à assurer une forme d'égale liberté, ou en tout cas de partage équitable des ressources, afin de permettre à chacun d'user de ses ressources propres, afin de poursuivre sa propre conception du bien. Donc il y a là une distinction sous-jacente au libéralisme politique, même fondamentale au libéralisme politique, qui est la distinction entre d'une part le juste et d'autre part le bien. Le juste, si je fais vraiment très très simple, le juste c'est comment répartir un gâteau de manière équitable. C'est le partage du gâteau, le partage des ressources. Assurer une juste répartition du gâteau, une juste répartition des ressources entre la diversité des individus. Le bien serait plutôt ce que chacun va faire de sa part du gâteau, ce que chacun va faire de la part des ressources auxquelles il a droit. Pour le libéralisme politique, et c'est un troisième principe du libéralisme, l'État n'a pas à se prononcer sur la question du bien. C'est ce qu'on appelle la neutralité axiologique, axios par rapport aux valeurs de l'État, la neutralité par rapport au bien. Il doit permettre à chacun justement de poursuivre sa propre conception du bien avec les ressources qui lui sont propres, au sein de cette sphère privée, hein, cet ensemble privé qui lui appartient, dans lequel il ne doit pas y avoir d'ingérence de l'État, et dans lequel il ne doit pas y avoir d'ingérence de l'autre. La conception de la liberté qui est dès lors sous-jacente, c'est l'idée, en fait, très simple dans l'adage populaire, que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est tout. La seule limite à la liberté, me semble-t-il, dans le cadre libéral, en tout cas la seule limite à la liberté, enfin la seule, le type de liberté qui doit être assuré dans le champ politique, c'est ce que Kant appellerait uniquement le libre arbitre. Donc permettre à chacun de poursuivre ses propres fins sans avoir à rendre compte de ses fins, à justifier ses fins, avec comme seule contrainte l'égale liberté de l'autre, avec comme seule contrainte cette limite externe que l'autre a la même liberté que moi et qu'il faut donc assurer une égale coexistence, une juste coexistence des libertés. Mais la seule limite est externe. Et je n'ai pas à rendre compte des fins que je poursuis tant que la poursuite de mon propre bonheur, de ma propre conception du bien, n'empiète pas sur la possibilité pour les autres de poursuivre leur propre conception du bien. Alors, cette exigence de justice, tout de même, hein, cette exigence d'assurer que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, cette exigence que chacun a une part équitable des ressources, permet quand même qu'il y ait une grande diversité de positions dans le champ politique entre des positions qui vont s'estimer libérales. On peut, notamment sous l'influence socialiste, estimer que cette liberté doit être réelle, et donc que ça implique une forte redistribution des ressources par rapport à la distribution assurée par le marché. Et donc il y a au sein du courant libéral possibilité d'avoir un axe gauche-droite sur les questions socio-économiques, et pas seulement sur les questions socio-économiques, mais très large, au-delà de ce consensus sur, je vais les synthétiser, les principes que je viens de citer, donc la préservation de l'idée de liberté individuelle comprise comme étant uniquement limitée de l'extérieur, de la conception individualiste de l'homme, 3, l'idée que l'État doit être neutre par rapport aux conceptions du bien, et 4, je ne l'ai pas thématisé, mais l'idée qu'il y a une séparation entre la société civile et l'État. L'État est vu essentiellement comme un instrument dont se dote la société civile, afin précisément de réaliser ce que je viens de suggérer, assurer la coexistence par le monopole de la violence légitime, assurer la coexistence des libres arbitres, assurer une juste coexistence des individus et permettre à chacun de réaliser dans sa propre sphère privée la recherche de son bonheur, la réalisation de sa propre conception du bien. L'État est vu essentiellement donc comme un instrument et comme un mal nécessaire. En définitive, l'État reste quelque chose qui est vu comme une contrainte qui pèse sur les individus, mais est donc un mal, quelque chose qui vient limiter la liberté de l'individu, mais un mal nécessaire. L'argument à la rigueur remonte simplement à Hobbes. C'est un mal nécessaire parce que sans État, ce serait l'anarchie, ce serait la guerre de tous contre tous. Et justement, notre possibilité de poursuivre notre propre bonheur serait constamment menacée par l'interaction, l'interférence violente potentiellement des autres. Donc il faut un État qui assure la sécurité dans sa fonction première, qui assure la sécurité pour permettre à chacun de poursuivre sa propre recherche du bonheur avec la part équitable de ressources qui doit lui revenir. Et donc le rôle du politique est réduit à cette idée qu'il s'agit d'assurer une juste coexistence d'individus recherchant chacun la satisfaction de leurs préférences personnelles. Il y a donc implicitement, même plus qu'implicitement, explicitement, une légitimation de la poursuite par les individus de leur propre bonheur, intérêt, préférence, selon le terme que vous préférez utiliser, ou conception du bien, pour le dire de manière plus philosophique. Alors cette conception du politique, et notamment l'idée que les individus sont légitimes dans la recherche de leur propre bonheur, dans tant qu'ils ne vont pas empiéter sur l'égal droit des autres à poursuivre leur propre bonheur, me semble, et notamment la séparation de l'État et de la société civile, me semble être devenue la philosophie politique dominante, et si elle l'est devenue, c'est grâce, je crois, à son extraordinaire capacité d'autotransformation, qui lui a permis d'intégrer, l'essence des critiques des traditions concurrentes. Alors, le libéralisme politique, si on peut faire remonter à Constant, donc il y a toute une des auteurs précurseurs avant, mais certainement un moment crucial de l'élaboration du libéralisme politique, c'est Constant et l'opposition entre la liberté des modernes et la liberté des anciens, c'est la réflexion sur la démocratie représentative, justement l'idée de mal nécessaire implique que, afin de permettre aux individus justement de chercher à pouvoir se réaliser dans leur sphère privée, ils peuvent déléguer la gestion des affaires publiques grâce à la représentation à une minorité d'élus, et que la liberté des modernes, nous dit Constant, est justement cette capacité ou ce droit à rechercher la réalisation de soi dans sa sphère privée et à être débarrassé de la gestion des affaires publiques, alors que la liberté des anciens était construite justement autour de l'idée de participation publique. Mais cette vision-là a d'emblée, notamment chez Tocqueville, fait l'objet d'un certain nombre de critiques, d'inquiétudes par rapport au risque que cette vision du politique uniquement comme un mal nécessaire conduise en définitive à un manque de contrôle sur le politique, les citoyens, à un affaiblissement de la participation politique. Bon, ce sont encore des analyses qui sont revéhiculées aujourd'hui, qui ressurgissent aujourd'hui régulièrement, mais donc le fait qu'il y ait un désintérêt pour le politique, que le politique soit vu uniquement comme un instrument extérieur à la société civile, est potentiellement une source de manque de contrôle. Et donc cette critique républicaine a incité les auteurs libéraux à mettre en avant qu'au-delà des droits fondamentaux, ces droits fondamentaux au centre du libéralisme, parce que les droits fondamentaux, c'est justement ce qui concrétise l'idée que chacun doit avoir sa part de ressources, son espace en termes de sphère privée, propre, qui définit sa sphère d'indépendance, à travers un ensemble de droits propres à chacun que les autres doivent respecter et que l'État lui-même ne peut pas venir mettre à mal. Donc ces droits fondamentaux ne sont pas seulement des droits de type privé. On pense dans le premier le droit à la sécurité physique et le deuxième le droit à la propriété privée. Ce ne sont pas seulement ces droits-là, ce sont également les droits politiques. Le droit de vote, la liberté de penser, etc. Et donc il y a d'emblée, dès l'origine du libéralisme, ou dès qu'il se façonne, comme doctrine réellement constituée au tournant des 18e et 19e siècles, il y a d'emblée, face à cette critique républicaine, une intégration forte des droits politiques. Mais alors, ce qui nous intéressera plus, c'est la capacité justement d'autotransformation dont le libéralisme a fait preuve face à la critique socialiste, je l'ai suggéré tout à l'heure, c'est avoir retenu du socialisme que même si on a un discours de type individualiste, même si on entend assurer à chacun la poursuite de son propre bonheur dans sa sphère privée. Il ne suffit pas que ce soit garanti formellement, il faut que ce soit assuré réellement en faisant en sorte que les individus aient non seulement le droit formel garanti, pas sur un papier, mais également les capacités d'exercice de celles-ci, et donc notamment l'accès aux ressources. Je renvoie à la critique marxiste, par exemple, de la propriété privée. Quel sens y a-t-il à garantir l'universalité du droit à la propriété privée si les moyens de production sont détenus uniquement par une minorité de la population? En définitive, il n'y a plus, alors pour la majorité de la population, de réelles possibilités d'exercer ce droit à la propriété, puisqu'ils sont totalement soumis au bon vouloir de ceux qui ont les moyens de production pour avoir un emploi, pour avoir la capacité d'acquérir des ressources et d'arriver à la propriété. Et donc, retenant cela, le libéralisme fait place aux côtés des droits privés, aux côtés des droits politiques, pour des droits sociaux. Et pour une vision, pour l'insistance sur un modèle social qui va mettre en avant que cette liberté individuelle n'est garantie que si des droits sociaux viennent compléter les droits privés, les droits politiques. Je passerai rapidement sur une critique plus récente, qui est la critique communautarienne, et qui mène aussi en évidence qu'à côté de ces droits privés, de ces droits politiques, de ces droits sociaux, il faut également, le libéralisme doit mettre en œuvre des droits culturels. On pourrait y revenir dans le débat, mais c'est notamment toute la question autour du multiculturalisme soulevée aujourd'hui, tout particulièrement autour de la question de l'intégration des communautés musulmanes en Belgique. Mais alors, le corollaire de cette thèse, c'est justement que par cette capacité d'autotransformation, le libéralisme a fait place à un libéralisme de gauche, enfin en tout cas a permis la construction conceptuelle d'un libéralisme de gauche, et que de fait, la plupart des partis en tout cas se revendiquant du socialisme, pas de manière homogène, il y a une grande diversité de tendances au sein des partis, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais globalement, la plupart des partis dits socialistes se sont progressivement transformés en partis libéraux de gauche. C'est ce corollaire que je voudrais développer de manière assez importante dans la suite de cet exposé. Et s'il y a un exemple paradigmatique de cette transformation, ou en tout cas une théorisation par excellence de cette transformation, c'est certainement l'exemple de Tony Blair, et derrière lui, de l'intellectuel qui est derrière lui, hein, le sociologue Anthony Giddens, qui ont développé le concept de troisième voie, qui se présentait comme étant une volonté d'adapter les intuitions de la social-démocratie au contexte du XXIe siècle, mais qui, à mon sens, constituait davantage un abandon de la social-démocratie au profit du libéralisme de gauche qu'une réelle adaptation. Je vais détailler cela, mais dans les grandes lignes, ça se marque notamment par un discours qui ne se centre plus sur la lutte collective pour une meilleure répartition, notamment via le rapport de force syndicale et populaire, mais plutôt qui va adapter le langage libéral de l'individualisme et défendre non plus donc la lutte collective, mais l'émancipation des individus via l'approfondissement des droits individuels. L'homme est bien vu comme un individu unique et non plus comme compris comme ayant une existence essentiellement à travers son appartenance à sa classe sociale. Ces partis d'ailleurs se conçoivent davantage comme des partis interclassistes que comme des partis propres à une classe sociale particulière. On observe aussi une acceptation du marché, mais avec la conviction que le marché doit être régulé, mais de l'extérieur, par l'État, afin d'en corriger les imperfections, alors qu'une pensée plus classiquement socialiste, en principe, donne un rôle beaucoup plus interventionniste de l'État sur le marché, voire demande à l'État de se substituer au marché. Ici, l'État reste extérieur et la logique du marché n'est pas contestée. Cela s'exprime tout particulièrement par l'acceptation de la privatisation des services publics contre le principe socialiste de nationalisation au moins partielle des moyens de production. Donc une privatisation, l'exemple anglais est un exemple exemplaire, si on peut me pardonner l'expression, certainement, mais chez nous aussi, hein, ce sont notamment des gouvernements dont les socialistes étaient partie prenante qui ont procédé aux successives privatisations. Une privatisation en général quand même, et c'est peut-être là une différence aussi entre le libéralisme de gauche et un pur néolibéralisme, un libéralisme de gauche va associer cette privatisation d'un certain nombre de contraintes. Si je prends un exemple, la Poste pourrait être privatisée à condition qu'elle maintienne son service universel. Il y aura dans le cahier des charges de cette Poste privatisée ou semi-privatisée la contrainte de continuer à desservir l'ensemble des villages, même le village le plus arriéré au bout d'une la province la plus éloignée, parce que alors que la pure logique économique ferait en sorte qu'il ne serait sans doute pas rentable, il n'est pas rentable d'aller de desservir, qu'il serait plus judicieux de limiter l'offre postale en excluant ce village. Ça vaudrait pour, par exemple, les télécommunications. Il faut tirer les lignes de téléphone jusqu'au bout et assurer un maintien du service universel. Mais c'est bien une entreprise privée et plus un service public qui est perçu comme pouvant assurer ce service. Sous-entendu, il y a une plus grande efficience lorsque c'est assuré par des acteurs privés, voire par une diversité des acteurs privés grâce au jeu de la concurrence. Tandis qu'on ne croit plus, en la supériorité de capacité de gestion publique. Et on ne croit plus en la nécessité absolue de sortir un certain nombre de services de la logique de marché. Au-delà de cette acceptation de la logique de marché, il y a dès lors une forme de volonté de rechercher un compromis, j'ai envie de dire, entre l'efficacité qui est supposée assurer le marché, la conviction libérale de gauche que le marché est le mode d'organisation de la production le plus efficace. Là aussi, on est en opposition avec la pensée socialiste qui au contraire affirme la supériorité de la planification, de la centralisation. Mais donc un compromis entre l'efficacité assurée par le marché et la justice sociale. Mais ce compromis apparaît par excellence entre, je veux dire, le glissement de la valeur de l'égalité, hein, qui est au centre du socialisme, vers plutôt ce que Rawls, et après lui surtout, parfois en le trahissant assez fortement, on a appelé le maximin, c'est-à-dire la maximalisation du minimum. Ce qu'il importe, ce n'est plus donc d'assurer une légalité, la distribution, mais de maximaliser la part de ressources qui revient à ceux qui ont le moins. Et donc, un ciblage sur les plus pauvres. Donc, ce maximil, c'est le cœur d'un des principes fondamentaux de justice de la théorie de John Rawls, le principe de différence, qui nous dit que les inégalités sont justifiées lorsqu'elles permettent d'améliorer le sort des plus défavorisés. Il y a quelque chose comme un ruissellement qui assure que l'accumulation des richesses en haut de l'échelle sociale peut s'avérer justifiée si elle est nécessaire pour favoriser le développement de l'activité économique, rendant possible la création d'emplois et le financement de la sécurité sociale. Bref, il ne faut pas faire trop peur aux investisseurs en les taxant trop, parce que si on leur fait trop peur, ils partiront, et s'ils partent, il n'y aura pas d'emploi, et la situation des plus défavorisés sera donc détériorée. Tandis que si, au contraire, on leur assure un régime fiscal relativement intéressant, que l'impôt sur les sociétés, sur le capital n'est pas trop élevé, ils investiront chez nous, tout le problème de la compétitivité, ce qui permettra de créer l'emploi et d'améliorer le sort des plus défavorisés. Fondamentalement, avec ce principe du maximin, cette théorie du ruissellement, la question fondamentale est de chercher à augmenter la taille du gâteau, en se disant plus la taille du gâteau sera grande, plus on pourra donner une taille importante à ceux qui, en termes absolus, à ceux qui auront le minimum, et on s'inquiète moins de la question non plus de la taille absolue, mais de la taille relative. Hein, puisque pour agrandir un petit peu la taille du gâteau de ceux qui ont le minimum, on légitime que les différences relatives, les inégalités, donc la taille, des classes sociales les plus aisées puissent être, elles, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc, c'est la taille du gâteau qui importe, il faut l'agrandir grâce à cette théorie du ruissellement plutôt que répartir la manière la plus égale possible ce gâteau, parce qu'alors l'effet de contraction sur le gâteau sera trop important. Cela signifie aussi que l'État n'est plus vu comme ayant étant là pour encadrer, contraindre, dominer le marché. Il est au contraire compris comme étant soumis aux logiques de marché. Dans l'exemple de la compétitivité, en un exemple par excellence, l'État est soumis au jeu de la logique marchande, qui se déroule d'ailleurs à une échelle beaucoup plus grande que la capacité d'action d'un État particulier, surtout, a fortiori d'un État comme la Belgique. Il est donc, l'État est soumis à cette nécessité de préserver la compétitivité économique, sinon on va avoir la contraction du gâteau, sinon on va détériorer le sort des plus défavorisés. Mais donc, il a à jouer un rôle. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il parvienne à renforcer, à favoriser cette compétitivité. Et cela s'exprime notamment dans le modèle social. Ce glissement s'exprime dans le modèle social à travers le passage de l'idée d'État-providence à l'idée d'État social actif, qui me paraît être particulièrement illustratif du glissement du socialisme vers le libéralisme de gauche. Alors, pour planter le décor rapidement, donc, l'État-providence, il s'est développé dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70, à ma naissance, j'ai envie de dire. Donc je ne l'ai jamais connu, peut-être. Je suis post-État-providence, post-30 glorieuses, en tout cas. Et on était dans ce qu'on a appelé le pacte, donc les 30 glorieuses, qui était caractérisé par un pacte social qui s'était qui réalisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Faut dire, le contexte de la guerre a dû forcément aider à apaiser les tensions entre le patronat et les travailleurs et les syndicats. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les partenaires sociaux sont dans un climat constructif et s'entendent sur un modèle social, sur un équilibre, et pas seulement en Belgique, sur un équilibre dans l'organisation socio-économique afin de favoriser l'agrandissement de la taille du gâteau, la croissance économique, et de s'entendre sur la répartition des fruits de cette croissance économique. Donc ce n'est pas propre à la Belgique, sous une forme ou une autre, ça correspond à ce qu'on a appelé le modèle du Fordisme de Henry Ford. Pourquoi ? Parce que Ford avait compris que s'il voulait vendre massivement ses voitures, il avait intérêt à bien payer ses travailleurs pour qu'ils aient l'argent suffisant pour acheter les voitures. Et donc, on n'était pas tellement, à travers l'idée de Ford, là, on est moins dans une idée en fait de conflit d'intérêts, mais au contraire de congruence des intérêts du patronat et des travailleurs. Les travailleurs ont besoin d'une répartition, d'avoir suffisamment de ressources pour qu'il y ait une demande suffisante pour les biens de consommation vendus par le patronat. Et donc, cette conviction qu'on ne doit pas être dans une logique de lutte des classes, mais au contraire de recherche de congruence d'intérêts, apparaît autour d'un deal à trois composantes. La première, les syndicats acceptent toute une série d'innovations techniques et managériales, notamment la spécialisation du travail, le travail à la chaîne en étant l'exemple, mais donc tout ce qui est notamment mécanisation, qui était vu dans un premier temps par les syndicats comme étant ce qui allait prendre le travail, puisque substituer les machines aux personnes. Les syndicats l'acceptent parce qu'ils comprennent que ça va augmenter la productivité du travail et qu'en augmentant la productivité du travail, les gains de productivité créés ainsi seront largement redistribués sous forme de salaires élevés. Ces salaires élevés vont soutenir la demande, le travailleur va pouvoir s'acheter sa forte, et ça va donc favoriser le développement d'une consommation de masse. Donc, chaque famille dans un premier temps va avoir sa voiture, puis ce sera chaque adulte va avoir sa voiture, mais pas seulement la voiture, c'est tout le développement de l'électroménager, notamment l'équipement familial qui se développe et qui nourrit cette croissance pendant 30 ans, une croissance de 4% par an en moyenne, qui va permettre, et c'est là le cercle vertueux, qui permet donc aussi une croissance des recettes publiques. Cette croissance des recettes publiques va permettre de financer des hausses des dépenses sociales et le développement de l'État-providence. Ces 30 glorieuses termine donc au milieu des années 70, hein, c'est la date que j'ai donnée tout à l'heure, 74, le premier choc pétrolier, le moment où le socialisme, me semble-t-il, en tout cas là, le modèle social de l'État-providence, contracte une maladie qu'il ne sait pas encore incurable, mais qui l'est. Au même moment, c'est aussi la fin du système de Bretton Woods et la libéralisation des capitaux qui va favoriser la mondialisation de l'économie, mais c'est surtout une congruence donc, de ce choc pétrolier de 1974 qui assure une hausse brutale des coûts de l'énergie, la perte de la compétitivité dans tous les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, qui ne sont pas capables du coup de répercuter dans leur prix la hausse des coûts de l'énergie, du coup une baisse de la demande soit une baisse de la demande lorsque les prix augmentent, soit une baisse de la rentabilité lorsque on n'est pas capable d'augmenter les prix et que c'est l'entreprise qui doit assumer la hausse des coûts de l'énergie. Et globalement, dans les deux cas, c'est une réduction des coûts et de l'emploi observée par ce choc pétrolier. Si le choc pétrolier ne suffisait pas, il est complété par le fait qu'on arrive justement à l'épuisement, peut-être, du modèle économique des biens standardisés, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, donc de cette consommation de masse autour de l'électroménager, des voitures. Donc, ce modèle qui a porté la croissance arrive à saturation au même moment. Et, mesdames, c'est aussi à ce moment-là que vous arrivez sur le marché du travail, augmentant la capacité, la demande de travail, au moment justement augmentant l'offre de travail, pour être exact, au moment où, justement, la demande se réduit. À ce moment-là, dans le modèle normal de l'État-providence, c'est l'État qui se substitue, c'est l'État qui doit se substituer au marché défaillant, politique de relance keynésienne, et c'est ce qui est opéré dans un premier temps, puisque le marché ne fournit pas l'emploi, c'est à l'État de le fournir à la place. On va développer énormément d'emplois publics subventionnés, on va procéder à un partage du temps de travail, réduction de la durée hebdomadaire, sans perte de salaire, c'est de cette époque-là que date tout le développement des prépensions, par exemple, et cela se caractérise donc par une hausse des prestations sociales, la chute des dépenses, et la hausse des prestations sociales. Dans le modèle keynésien qui est sous-jacent à l'État-providence, c'est normal. Il faut que l'État amortisse le choc et même plus relance l'économie en proposant une consommation publique qui vient se substituer à la consommation privée. C'est des choses dont nous avons réentendu parler ces deux dernières années. Le problème, c'est qu'on est à la fin du système de Bretton Woods et qu'on est dans un cadre de libéralisation des capitaux, je l'ai déjà évoqué. L'économie se mondialise. Et dès lors, les plans de relance, donc l'idée de Keynes, l'idée keynésienne, l'idée des plans de relance, c'est que lorsque l'État dépense de l'argent, il y a ensuite ce qu'on appelle un multiplicateur qui va assurer un effet retour positif. Donc, si l'État dépense de l'argent, cet argent va non seulement créer de l'emploi, mais ça va donner un salaire. Ce salaire va ensuite permettre faire en sorte que le travailleur dépense, consomme, que cette consommation va à son tour va permettre de maintenir ou de relancer un emploi qui cette fois-ci n'est plus public mais privé, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on relance la demande et qu'on relance le dynamisme économique. Mais ça n'a de sens que dans une économie relativement fermée. À partir du moment où la dépense par l'État ne va pas financer une consommation locale, l'effet multiplicateur devient dérisoire. Et c'est ce qu'on a observé. En fait, le plan de relance à ce moment-là, et c'est notamment la tentative de Mitterrand entre 81 et 83, va essentiellement financer non pas la relance de l'économie locale, mais l'importation. En Belgique, c'est pour ça que dernièrement, on disait que le meilleur plan de relance pour la Belgique, c'était le plan de relance allemand. Ça ne nous coûte rien, mais c'est lorsque l'État allemand permet de relancer l'économie que ça favorise l'importation des produits belges en Allemagne, et donc que ça fait travailler des entreprises belges et que ça défend l'emploi en Belgique. Alors, si c'est fait de coordonner au niveau mondial, ça peut marcher, parce qu'on est de nouveau alors dans un ensemble fermé. Mais lorsque, et c'est le cas de la France, entre 81 et 83, lorsqu'on tente de le faire dans un seul pays, les déficits publics qui sont inhérents à ces plans de relance, finance les importations et crée un déficit. Non seulement il y avait déjà le déficit public, mais en plus un déficit de ce qu'on appelle la balance commerciale. Il y a beaucoup d'importations et peu d'exportations. Ça joue sur le niveau de la monnaie. La monnaie française chute à de moins en moins de valeur, parce que notamment lié à l'endettement. Et bref, au lieu de parvenir à relancer l'économie, on creuse la dette publique que nous portons encore aujourd'hui. Ça n'a pas fonctionné. En 83, Mitterrand renonce à sa tentative de plan de relance, change complètement de politique économique. C'est pour ça que j'ai donné la date de 83, par l'échec des plans de relance, c'est la mise en évidence que la maladie contractée en 74 est une maladie incurable. Et du coup, la protection sociale change complètement. La perception du rôle de la protection sociale change complètement. Dans le modèle de l'État-providence, la sécurité sociale joue un facteur de stabilisation. C'est quelque chose qui va permettre justement, lorsque l'économie faiblit, qui se substitue donc au privé, qui permet d'amortir le choc et de favoriser la relance économique. C'est plus du tout vu comme un élément de stabilisation. Subitement, ça devient une charge qui limite la compétitivité. Le modèle de protection sociale, c'est ce qui doit être financé, et donc ce qui demande qu'il y ait des cotisations sociales, donc ce qui signifie que le coût du travail s'alourdit, et donc c'est quelque chose qui freine la compétitivité. Ce n'est plus un élément positif de stabilisation, mais de l'huile dans notre cercle vertueux des 30 glorieuses, ça devient une charge qui limite la compétitivité. Du coup, la question auquel on se retrouve confronté dans les années 80, et qui va conduire au démantèlement progressif de l'État-providence, à ce modèle du cercle vertueux, c'est comment préserver quand même, en tout cas pour une pensée de gauche, comment préserver les acquis sociaux sans mettre à mal le dynamisme économique. Comment préserver ces acquis sociaux sans que la faiblesse de notre compétitivité finisse par nous mettre dans une situation intenable où justement notre gâteau se contracte de plus en plus. Face à cette contrainte de restaurer la compétitivité, les années 80 sont marquées par des politiques d'austérité qui visent à rétablir l'équilibre de la balance commerciale, donc entre importation et exportation, et à permettre à l'État de revenir à l'équilibre budgétaire. Ce sont des problématiques que nous connaissons aujourd'hui encore. Et ça se traduit par une sélectivité, un ciblage accru des prestations sociales. Le système va être de plus en plus, conformément d'ailleurs à l'idée de Maximine, les prestations sociales vont être ciblées autant que possible sur les plus pauvres. Donc, on va en fait glisser d'une logique de redistribution des revenus, que je vais qualifier grosso modo de socialiste, à une logique plutôt libérale de gauche, de lutte contre la pauvreté. Uniquement, et donc... ciblée réellement sur les situations de pauvreté plus que sur la question de l'égalisation de la distribution des revenus. Avec en conséquence une forte fragilisation de la classe moyenne. La redistribution impliquerait notamment un système d'imposition relativement progressif, il est de plus en plus, notre système d'imposition des revenus est de plus en plus en cloche, en U inversée. En caricaturant, les classes sociales n'ont pas assez de revenus pour avoir la chance de payer des impôts. Les classes sociales les plus aisées, elles, sont trop riches pour qu'on ose les taxer, trop mobiles notamment. Au-delà des revenus du travail, c'est notamment tous les revenus du capital qu'il paraît difficile qu'on a peur de taxer, justement parce qu'étant mobile, comme je le disais tout à l'heure, la peur de la fuite des capitaux, la peur de perte de compétitivité. Et du coup, ce qui est essentiellement taxé, c'est cette classe sociale moyenne qui est, elle, trop riche pour profiter. Qui a la chance d'être trop riche pour bénéficier des mécanismes de sécurité sociale sans doute, mais elle n'est pas assez riche pour pouvoir bénéficier de l'ingénierie fiscale, éventuellement avoir accès à des paradis fiscaux, éventuellement aller s'installer à Monaco et autres, que sais-je, en tout cas pour que sa mobilité potentielle fasse peur à l'État. On a donc une fragilisation de la classe moyenne sur qui pose l'essentiel du système de protection sociale, alors qu'en même temps, cette classe moyenne n'a pas le sentiment qu'elle va pouvoir en bénéficier. Il y a une dissociation entre bénéficiaires potentiels, qui sont les classes strictes les plus inférieures, socio-économiquement, et ces classes moyennes sur qui pèse l'essentiel du poids de la sécurité sociale. Et cette fragilisation conduit à la recherche d'un nouveau pacte social dont je dirais que la thématisation, en tout cas la conceptualisation et même la conviction politique que l'on allait construire un nouveau pacte social, au-delà de plusieurs essais, c'est vraiment le moment le plus où cela se cristallise en Belgique, c'est 1999, avec la formation du gouvernement arc-en-ciel et une déclaration gouvernementale nourrie par ce concept d'État social actif sur lequel s'étaient entendus libéraux, socialistes et écologiques. Concept d'État social actif dont le théoricien est, en Belgique, en tout cas celui qui porte ça sur la scène politique belge, est Frank Vandenbroek, le ministre SPA, hein, donc bien un ministre se disant socialiste, qui, pour ceux qui s'en souviennent, avait vécu quelques années auparavant un épisode délicat avec lorsqu'il était président du SPA et une caisse noire où il avait brûlé, il avait trouvé une caisse noire dans le Parti socialiste et il avait brûlé la valise. Donc, au propre et pas au figuré. Donc face à cet argent sale, il avait utilisé les moyens les plus radicaux. Il ne voulait pas avoir cet argent sale sur les mains. Il l'a brûlé. Donc autant dire que ça a fait un scandale, ça lui a coûté son poste, il a démissionné, il a pris une période de recul par rapport à la scène politique belge, et cette période de recul, il l'a passée en Angleterre à faire une thèse en philosophie politique, spécialement autour de la question de la troisième voie, proche d'Anthony Giddens, et de 99, il revient, son doctorat en poche, en ayant conceptualisé le modèle de l'État social actif, qui est vraiment donc, le modèle social qui correspond au concept de la troisième voie développé par Anthony Giddens et Tony Blair. Et ce concept est au cœur de la déclaration de 99 et doit représenter le pacte social alternatif. Alors, ce modèle repose à la fois sur la nécessité de mettre en place ce modèle repose à la fois sur des motifs pragmatiques et sur des motifs normatifs. Motifs pragmatiques, d'abord, c'est la conviction que le coût de notre système social est excessif et que ça freine notre compétitivité. Et puis, c'est deuxièmement la conviction, elle était déjà vraie il y a 10 ans, elle est certainement encore plus vraie aujourd'hui, qu'on allait avoir un gros problème face au vieillissement progressif de la population, un gros problème de soutenabilité de notre modèle social. À côté de ces motifs pragmatiques, il y a des motifs normatifs, donc, qui en fait sont ceux que j'ai rapidement esquissés. Hein. Donc, le système est inéquitable envers la classe moyenne, il est inéquitable envers cette classe moyenne parce que c'est sur elle que pèse l'essentiel du coût et non pas sur les classes sociales, à l'exception des classes sociales les plus favorisées, alors qu'ils ont peu de chances d'un jour en bénéficier réellement. Donc, il y a en fait, et c'est une dualisation de plus en plus forte entre contributeurs et bénéficiaires du système de sécurité sociale, et donc c'est le caractère assurantiel du système social où chacun a le sentiment de contribuer pour se protéger d'un risque qui peut le concerner, qui est mis à mal. D'où la difficulté de conserver une motivation, une adhésion suffisante à ce modèle social. Et puis il serait aussi inéquitable envers les bénéficiaires, parce que justement l'État-providence serait un État non pas actif mais passif, et qu'il maintiendrait les bénéficiaires enfermés dans une dépendance. La sécurité sociale se contenterait de fournir un revenu de remplacement plutôt que de favoriser la réinsertion du travailleur dans le monde du travail. Et il y a donc cette dualisation sociale entre contributeurs et bénéficiaires qui implique qu'on passe d'une logique assurantielle de mutualisation du risque à un mécanisme de solidarité unilatérale. Cela se traduit par une hausse de ce qu'on appelle le financement alternatif de la sécurité sociale. Initialement, la sécurité sociale, elle était financée par les cotisations sociales, par le budget de la Sécu, d'ailleurs en Belgique, est séparé du budget de l'État, mais de plus en plus, les cotisations sociales qui expriment justement l'idée de mutualisation, de contribution, chacun cotise à une caisse d'assurance sociale, Mais de plus en plus, cette logique de cotisation ne suffit pas pour financer le modèle de sécurité sociale et faire face à la hausse des dépenses. Et il faut avoir un financement alternatif qui est en fait le financement classique, qui est la fiscalité, qui est le budget de l'État, qui vient compléter le budget de la Sécu. Et donc, ce coût excessif du système de sécurité sociale se traduit par cette hausse du financement alternatif. Alors, ce modèle de l'État social actif se traduit donc par l'idée qu'il faut activer les politiques sociales, qu'il faut non plus être dans un modèle d'assistance passif, mais viser la réinsertion sociale. Cela signifie quoi ? Cela signifie mettre en place des politiques de formation, mettre en place des politiques de coaching qui visent à permettre aux demandeurs d'emploi d'accompagner le mouvement du marché. On n'est plus dans une logique où l'État est là pour éventuellement s'opposer à une évolution du marché qu'on trouverait inadéquate. Le jeu, notamment le jeu de destruction créatrice, le fait que dans certains secteurs, l'emploi est détruit et qu'il va réapparaître, mais dans d'autres secteurs, il ne faut pas aller à l'encontre. L'État perd ses sous lorsqu'il va à l'encontre de l'évolution du marché. Il perd ses sous lorsqu'il a essayé forcé de maintenir la sidérurgie wallonne et à subventionner la sidérurgie wallonne pour conserver les emplois. Non, il faut accepter cette évolution et il faut l'accepter du coup en signifiant que le rôle de l'État n'est pas d'aller à l'encontre, mais d'accompagner ce mouvement. Et accompagner, c'est favoriser la réinsertion des travailleurs qui perdaient leur job dans la sidérurgie pour leur donner la formation qui leur permettra de retrouver les jobs dans les nouveaux secteurs émergents. Voilà. C'est la conviction, ça correspond à l'idée, à un concept qu'on a aussi souvent entendu de flexi-sécurité. Il faut accepter la flexibilité, mais en assurant au travailleur qu'il doit être flexible, il doit être capable de s'adapter, mais qu'il va pouvoir être coaché, accompagné, bénéficier d'un revenu de remplacement dans cette période de flexibilisation, dans cette période de glissement qu'implique la formation, et qu'on va lui offrir les formations. Et donc, perdre son emploi, c'est pas si grave. L'idée, c'est pas si grave de perdre son emploi, parce que on va faire en sorte que vous puissiez en retrouver un, en tout cas on va vous faciliter pour que vous puissiez en retrouver un dans un secteur alternatif. Mais alors il y a en fait de manière sous-jacente à ce modèle la conviction que la participation sociale est à la fois un droit et un devoir. Le but est de maximaliser la possibilité d'insertion et tout particulièrement d'insertion des plus défavorisés. Donc là il y a l'idée d'assurer un droit fondamental à la participation. Mais d'un autre côté, il s'agit de sanctionner aussi ceux qui ne contribuent pas à la productivité économique. Et cette idée de sanction, ça repose aussi sur une transformation de la conception de ce qu'elle est la cause des risques sociaux. Dans l'État-providence, lorsque notamment une perte d'emploi arrivait, on voyait cela comme s'expliquant par les déséquilibres macroéconomiques qui s'imposent aux individus. Ce n'est pas la faute des individus, c'est un choc pétrolier. Tandis que dans l'État social actif, on est de plus en plus conscient que le risque, notamment le risque de perdre son emploi, dépend de caractéristiques microéconomiques prévisibles. Le niveau de qualification, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez un chômeur de long terme si vous avez un faible niveau d'éducation. Il y a beaucoup plus de chances que vous contractiez un cancer, que vous tombiez malade si vous avez une mauvaise hygiène de vie, si vous fumez par exemple. Et donc, il s'agit que l'État, d'une part, soit proactif. L'État social actif, c'est l'État qui doit être actif d'abord, à travers des politiques d'éducation, de formation, d'information, d'accompagnement, comme je l'ai souligné, et aussi en supprimant les incitants, tout ce qui est incitant à adopter des comportements pièges, à risque, tout particulièrement, par exemple, en luttant contre les pièges à l'emploi qui font que, si vous êtes dans une situation de piège à l'emploi, c'est-à-dire que si l'écart entre le revenu de remplacement et le revenu minimal est trop faible et que du coup ça vous coûte d'aller travailler, parce que vous devez trouver un endroit pour garder vos enfants, par exemple. Typiquement, le nombre de femmes dans cette situation-là, les coûts de garde d'enfants sont trop importants pour justifier que ça vaut encore la peine d'aller travailler. Donc là, vous êtes incité à rester chez vous. Mais du coup, vous vous éloignez de plus en plus du marché du travail, et votre réinsertion, par exemple, lorsque les enfants seront grands, devient de plus en plus difficile. Donc il faut supprimer ce type de dysfonctionnement incitant à adopter des comportements nuisibles. En contrepartie, il y a fondamentalement l'idée qu'il y a une responsabilité individuelle, alors que le choc pétrolier, ce n'est pas la faute des individus. Ici, par contre, c'est la faute de l'individu s'il a une mauvaise hygiène de vie, c'est la faute de l'individu s'il ne suit pas les formations qu'on lui propose. Et dès lors, dans ce cas-là, il peut être sanctionné, il peut être exclu du mécanisme de protection sociale. Par là, on voit, me semble-t-il, que dans ce modèle d'État social actif, il y a fondamentalement, on retrouve l'ancrage libéral, à travers l'idée qu'il y a une responsabilité individuelle, et que chacun doit se prendre en charge lui-même, qu'il doit assumer sa responsabilité. Alors c'est très différent, du concept de responsabilité qui serait... que personnellement, au point de vue de l'humanisme démocratique, je défendrais, et qui est au contraire une idée de responsabilité sociale. On n'est pas seulement responsable de soi, il faut éviter d'être une charge pour les autres. L'idée de responsabilité sociale, sur laquelle je reviendrai, c'est aussi l'idée que chacun n'a pas à agir uniquement pour se prendre en charge, et que c'est sa responsabilité de concourir à son propre bonheur, sans empêcher les autres, ou sans... être une charge pour permettre aux autres de poursuivre leur propre bonheur. Non, l'idée de responsabilité sociale, c'est au contraire l'idée que chacun doit aussi agir en s'efforçant de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer au bien commun. Et s'il y a une justification des politiques d'activation, développées notamment par le CDH, notamment sur les politiques de formation d'accompagnement, a poursuivi le modèle de l'État social actif, mais c'est certainement pas sur un concept de responsabilité-sanction tel qu'il était porté par Vandenbroek, tel qu'il était porté par le modèle de l'État social actif. Il ne s'agit pas, me semble-t-il, de se demander si la personne est responsable de la situation dans laquelle il est arrivé, dans laquelle il est en situation de dépendance, et de sous-entendre si c'est sa faute, il doit être sanctionné. Ce n'est certainement pas ce concept-là de responsabilisation que pour notre part nous porterions. C'est plutôt non. C'est un deuxième type de concept de responsabilité. Si la participation est d'une certaine manière un devoir, effectivement, ce n'est pas afin de ne pas être une charge pour les autres, c'est afin que chacun, à partir de ses propres ressources, se dise qu'il a aussi comme mission, non pas seulement de s'occuper de soi-même, mais de s'efforcer de contribuer au bien commun. Je reviendrai sur cette idée et en quoi ça s'oppose justement à l'idée de liberté comme libre arbitre que j'ai mis en avant dans l'individualisme. Mais je vois que je ferais mieux d'accélérer. Cet ancrage libéral s'explique aussi, se voit aussi dans l'idée que l'État doit veiller à maximiser les opportunités offertes à chaque individu de réaliser son projet de vie. Ce qu'on veut faire en sorte, c'est que chacun ait tous ceux qui ont le minimum et le maximum de chances de quand même réaliser leur projet de vie. Ça se traduit par une insistance davantage sur l'égalité des chances que sur l'égalité des résultats. Il reste néanmoins pas mal de différences avec le néolibéralisme. Il s'agit par exemple bien d'idée que l'État social actif c'est une transformation du modèle de sécurité sociale, ce n'est pas une réduction. On n'est pas du tout dans une logique où on veut réduire les dépenses sociales parce qu'elles pèseraient sur la création d'emplois. Non, on tient à garder un niveau de dépenses sociales important, mais en étant conscient que ça demande une transformation du modèle. Il s'agit d'activer, c'est une activation des moyens, des politiques à travers la formation et l'encadrement. Il ne s'agit pas d'une pure limitation dans le temps, par exemple, des revenus de remplacement. On met aussi en évidence la conviction que l'État a un rôle important à jouer, notamment pour assurer le meilleur appariement de l'offre et la demande de travail. On ne pense pas qu'il y a nécessairement une autorégulation du marché. On croit fondamentalement que le marché est porteur d'un certain nombre d'imperfections et que l'État est là pour compenser ces imperfections, alors que le néolibéralisme croit que le marché correspond en principe naturellement aux conditions de la concurrence pure et parfaite. Donc c'est en ce sens-là que c'est bien, me semble-t-il, un libéralisme de gauche et pas un néolibéralisme. Cela dit, ce libéralisme de gauche nécessite, pour être efficace, d'importants investissements publics. On pense à tout l'insistance, notamment sur l'éducation. Si la compétitivité, en quelque sorte, on veut là la maintenir grâce à la grande productivité des travailleurs, et cette grande productivité, elle demande, et cette capacité d'adaptation, de flexibilité, elle demande un haut niveau de formation de base comme de formation continue. Ça demande donc des investissements publics, qu'on pense uniquement à ceux-là, importants. Mais parallèlement, il y a, me semble-t-il, un biais dans ce modèle, c'est que l'acceptation du jeu économique, et une acceptation de la mondialisation, est en ce compris une acceptation de la financiarisation. Et on a vu, comment cette financiarisation induit un biais court-termiste, demande une rentabilité à court terme, qui s'oppose à ces investissements publics qui, en fait, n'ont de réelle efficacité que à long terme, qui demandent du temps. Pensons à notamment les dépenses d'éducation, notamment les éducations de base, c'est quelque chose qu'il faut 20 ans pour que ces investissements commencent à porter leurs fruits. Et il y a, me semble-t-il, là une contradiction dans le modèle dans l'acceptation de la financiarisation par ce modèle libéral de gauche, qui fait que du coup, alors que le concept, me semble-t-il, était véritablement un concept qui peut se dire libéral de gauche, en l'absence de ces investissements à long terme, sous le poids du court-termisme de la financiarisation, en fait, ce modèle a, dans la pratique, souvent reconduit plutôt à un modèle néolibéralisme, et en tout cas à un échec de proposer un modèle de pacte social alternatif, d'où d'ailleurs la résurgence aujourd'hui, ce fut le cas tant de Loretton Kunis que de Joël Mickey, la résurgence d'un appel à un nouveau pacte social, à repenser notre modèle social. On se retrouve quelque part dans la même situation que 10 ans plus tôt, et notamment toujours sous la double contrainte d'une compétitivité économique et de la nécessité de faire face au vieillissement de la population. Alors, 10 ans plus tard, on est aussi confronté l'ère post-crise, dans une faillite quand même, ou dans une fragilisation du modèle libéral, en ce compris dans la rhétorique politique, et qui permet la réapparition d'un certain nombre de concepts plutôt proches du socialisme. Donc on pense simplement à celui de nationalisation qu'on a beaucoup entendu depuis 2 ans. On pense aussi à une rhétorique de lutte des classes, de conviction que la crise renvoie à quelque chose comme une lutte des classes. Elle serait la faillite de la dérégulation néolibérale, elle serait de la responsabilité des élites économiques, alors que ce sont les simples citoyens qui en supportent aujourd'hui les conséquences. Et pour éviter qu'une telle crise se reproduise, il faut le retour d'un État qui encadre le marché, qui réimpose sa loi au marché. Et donc, en tout cas, dans cette rhétorique, il y a une résurgence, me semble-t-il, d'un vocabulaire socialiste relativement classique. Reste à savoir si ce retour de l'État, en tout cas à titre personnel, je pense indispensable, encore faut-il voir sous quelle forme il prendrait, pour savoir si c'est vraiment un retour socialiste ou si on resterait dans une logique libérale de gauche. Par exemple, est-ce qu'il s'agit de simplement pallier les défaillances du marché, alors là on reste dans une logique libérale de gauche, mais conscient qu'il y a une imperfection des marchés, ou est-ce qu'il s'agit de se substituer par la planification au marché, éventuellement en reprenant le contrôle des prix d'un certain nombre de choses, destiné que ce n'est plus au marché de fixer les prix d'un certain nombre de biens, mais que ça doit être l'État. Est-ce qu'il va falloir remettre en cause les privatisations ? Par exemple, et même quand on les remet en cause, si on parle de nationalisation d'une banque publique, ça peut être dans deux logiques totalement différentes. Est-ce que la banque publique est là pour se substituer aux banques privées ? Alors là, on est sans doute dans une logique socialiste. Ou bien est-ce qu'on veut qu'il y ait une banque publique, paradoxalement en apparence, en tout cas paradoxalement, pour mettre plus de concurrence ? Et donc pour mieux faire jouer le marché. Parce que justement, le problème du marché, là en l'occurrence du marché bancaire, mais ça pourrait être la même chose sur le marché de l'énergie ou des télécommunications, c'est que la libéralisation n'a pas conduit à une situation de concurrence, mais à une situation d'oligopole. Une situation où il y a quelques grands acteurs qui peuvent s'entendre pour mettre des prix qui ne sont pas des prix concurrentiels qu'on imagine sur un marché qui serait conforme à une concurrence parfaite. Il y a trop peu d'acteurs, ils sont trop importants et ça leur permet de mettre des marges. Ça vaudrait pour les banques, le cartel des grandes banques qui serait capable de s'entendre pour, dû à l'insuffisance de la concurrence, pour par exemple mettre des taux d'intérêt trop bas sur les comptes bancaires ou demander des taux d'intérêt trop élevés pour vos crédits hypothécaires. Une banque publique casserait le cartel en donnant des taux d'intérêt qui seraient des taux d'intérêt meilleurs et forcerait les grandes banques à s'aligner sur la banque publique. Mais là, on est quand même encore dans une logique libérale de gauche, parce que la nationalisation d'une banque et pas des banques, la différence est là, la nationalisation d'une banque viserait à augmenter la concurrence sur le marché et donc à faire mieux fonctionner le marché et pas à se substituer au jeu du marché. Est-ce qu'on reste dans l'idée que face à la hausse du chômage, il faut renforcer, et ça a été au centre du débat il y a quelques semaines, est-ce qu'il faut renforcer l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi, ou au contraire, il faut mettre fin aux politiques de contrôle des chômeurs et plutôt créer des emplois publics et fournir des revenus de remplacement? Là, on aura un retour à une logique de l'État-providence. Le plan de relance, on a beaucoup parlé de plan de relance, mais est-ce que ces plans de relance étaient de véritables plans de relance ou est-ce que c'était plutôt des amortisseurs sociaux de la crise? Est-ce que ça visait à apaiser le coût de la crise ou est-ce que c'était réellement capable de relancer l'économie? Pour que ce soit réellement capable, pour que ce soit véritablement un plan de relance, me semble-t-il, il faudrait alors une ampleur beaucoup plus grande et il faudrait une coordination internationale beaucoup plus importante. Ici, à l'heure actuelle, les plans de relance étaient des plans amortisseurs. Et donc, là, on reste encore dans une logique libérale de gauche. En tout cas, on n'est pas dans un retour dans une logique socialiste qui demanderait une relance d'une toute autre ampleur. Alors, donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la forme dont prendra ce retour de l'État. Mais en tout cas, personnellement, je ne crois pas que ce retour de l'État va prendre réellement la forme dure, enfin la plus radicale, qui exprimerait un véritable renouveau du socialisme. Je ne le crois pas, je ne le souhaite pas, je vous dirais. Je ne le souhaite pas parce que cela se constituerait d'ailleurs à mes yeux plutôt un retour en deçà du libéralisme qu'un réel dépassement de celui-ci. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, si je crois comme les libéraux, je crois qu'il y a quand même un progrès dans le passage du socialisme au libéralisme de gauche, malgré notamment un certain nombre, malgré son échec global, à mon avis, dû notamment à son acceptation de la financiarisation, comme je l'ai suggéré. Mais personnellement, je reste favorable à l'idée que l'État doit corriger les imperfections du marché, et je reste sceptique en définitive sur la capacité de l'État à se substituer au marché pour assurer de manière efficace la coordination de la production. De même, le renoncement au collectivisme et au déterminisme socio-économique est certainement pour moi des éléments qui furent plutôt positifs. Mais plus fondamentalement, si je ne crois pas que le renouveau du socialisme soit la bonne réponse aux insuffisances du libéralisme, c'est parce que, comme je l'ai annoncé en introduction, c'est parce que je pense que le dépassement du libéralisme doit passer par la rupture avec un certain nombre de points où il y a davantage d'accords que d'opposition entre socialisme et libéralisme. Ça commence par la lecture de la crise. Pour moi, la dérégulation néolibérale qui est, ok, à l'origine de la crise, mais ce n'est pas un processus seulement économique et financier. C'est d'abord un processus moral et politique. Le fondement de la dérégulation, pour moi, c'est d'abord une escroquerie philosophique. Avoir dit aux individus qu'ils pouvaient se préoccuper que de ce qu'ils pensaient être leur intérêt personnel. Que c'était cette légitimation du fait que les individus pouvaient se préoccuper que de leur propre bonheur, que de leur propre intérêt personnel. Pour moi, la crise montre la faillite d'un individualisme qui est devenu commun tant à la droite qu'à la gauche. Or, nous savons aujourd'hui que lorsque les individus agissent sur base que de leur seul intérêt immédiat, en tout cas pour moi c'est la leçon de la crise, ni le marché, ni l'État ne peuvent rendre le concert des intérêts particuliers durablement conforme à l'intérêt général. En gros, je ne crois pas plus en l'efficacité de la main de fer de l'État que je crois dans celle de la fameuse main invisible du marché d'Adam Smith. je ne crois ni à l'un ni à l'autre, ou je ne crois pas à l'autosuffisance de l'une et de l'autre. En définitive, l'individualisme libéral et le collectivisme socialiste me semblent partager ce que je pourrais appeler une même déresponsabilisation personnelle par rapport au bien commun. Par rapport à cela, j'insiste, je mets au cœur de l'humanisme démocratique un concept de liberté qui n'est pas la liberté individualiste, qui n'est pas le libre arbitre dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas cette liberté uniquement limitée de l'extérieur par la volonté, par l'exigence que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, mais ce que, avec Kant, j'appelle une liberté comme autonomie de la personne, et qui est pour moi la synthèse de l'idée de liberté individuelle et de responsabilité sociale. L'idée d'autonomie, c'est l'idée que l'on est libre non seulement lorsqu'on respecte l'égale liberté des autres, non seulement lorsqu'on est conscient que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est certainement exact, il ne s'agit pas de nuancer cela, mais il s'agit de dire aussi que la liberté doit être limitée de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur par la liberté de l'autre, elle doit être limitée de l'intérieur par la volonté d'agir bien. Kant nous aurait dit par la volonté d'agir selon des maximes qui sont universalisables, dont on peut vouloir que les autres les adoptent aussi. Soit, simplement, on n'agit pas seulement lorsqu'on est respectueux du juste, donc lorsqu'on est respectueux de la liberté de l'autre, on agit aussi, on doit, pour être libre au sens de l'autonomie, il faut aussi agir en ayant la volonté d'agir bien. Alors ça ne demande pas qu'on soit d'accord sur ce que signifie agir bien, forcément. Ici, je ne dis pas qu'on sait ce que signifie agir bien. Mais ce qui est en tout cas indispensable, c'est que chacun agit non seulement avec la volonté de rechercher son propre bonheur, non seulement sous contrainte du respect de la même liberté chez l'autre, mais aussi avec la volonté que ses préférences, les fins qu'il poursuit, soient des préférences qu'il juge, qu'on puisse juger bonnes, qu'on puisse juger conformes à ce qu'il doit être. Et donc, il y a, à travers ce concept d'autonomie, sur un plan philosophique, cette idée qu'il y a une synthèse possible entre liberté et responsabilité, si je la traduis politiquement, donc c'est sortir de l'individualisme pour retrouver ce concept de responsabilité sociale dont j'évoquais. Il n'y a de rupture du dépassement, il y a une rupture avec le libéralisme, de dépassement du libéralisme possible que si on se reconvainc chacun que nous avons quelque chose à dire, nous avons à tenir compte, nous avons à prendre en charge aussi le bien commun et que, en fonction de nos possibilités, nous avons chacun, au-delà de notre bonheur personnel, à contribuer au bien public. Le marché ne fera pas le boulot seul, l'État non plus. Le thème de la responsabilité sociale est valable pour les entreprises. Hein, donc on l'entend régulièrement reparler, s'interroger, mais quelle était la responsabilité sociale, par exemple, des acteurs financiers, la responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, je pense que c'est un thème important. Mais il y a un écueil en tout cas à éviter par contre, hein, parce que ce thème de la responsabilité sociale peut aussi être réinterprété d'une manière néolibérale lorsqu'on veut faire croire qu'il n'y a pas besoin de régulation publique, il n'y a pas besoin que l'État joue un rôle parce qu'il y a une forme d'autorégulation par les entreprises. Ok, la main visible ne suffira pas, mais on va faire preuve de responsabilité sociale, et comme on fait preuve de responsabilité sociale, vous n'avez pas besoin, on va s'autoréguler, vous n'avez pas besoin de... Donc ça, ce serait le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Pour moi, la régulation publique, et j'appelle à un retour de l'État, ce que je conteste, c'est qu'on veut lui mettre tout le boulot sur la charge de l'État, comme avant on a mis tout le boulot sur le marché. On a besoin de davantage de régulation, on a aussi besoin de l'efficacité de la main visible du marché, et l'État est notamment là pour pallier les imperfections du marché, pour qu'il soit plus efficace, non pas pour s'y substituer, pour améliorer son efficacité, mais on a aussi fondamentalement besoin peut-être de la main de velours, de la responsabilité sociale. Ça vaut pour les entreprises, mais ça vaut surtout pour chacun. Si je pense à la fraude à la TVA, par exemple, je ne crois pas qu'on parviendra à résoudre la question de la fraude à la TVA par la sanction. Je vais revenir sur cette idée plus tard. On parviendra réellement à résoudre le problème de la fraude à la TVA lorsque dans le blanc des yeux, on se regardera et qu'il y en a un qui dira « Fais pas de facture hein. ». La personne en face aura le sentiment qu'on est en train de lui dire « On vole hein. ». On vole la collectivité, mais c'est un vol. Tant que, si on est dans un contexte où la plupart des gens, c'est quand ils leur disent « Non, non, moi je veux une facture qu'on le regarde. » T'es pas un peu pigeon, toi. Si on est dans un contexte social où le sentiment de paix, quelque chose aussi basique, évident, de faire une facture et payer la TVA, c'est pas du vol, c'est un sport national ou quelque chose comme ça, et que c'est celui qui paye qui a une sorte de pigeon, enfin, je caricature à peine, ah si, allez, je caricature un peu, mais, quoique, ça dépend. Voilà, c'est fondamentalement, s'il y a ce sentiment de que, même lorsqu'il, globalement, l'intérêt des deux, et qu'il n'y a pas une caméra là pour surveiller, l'intérêt des deux est... une fraude au moins partielle, tant qu'on joue là-dessus, ça ne marchera pas. Et donc l'intérêt convergent, la main invisible, ne joue pas. Et l'État n'est pas capable d'être derrière chacune opération pour vérifier ça. Il faut fondamentalement qu'on soit dans un climat où, non, je ne vais pas voler, c'est du vol, voilà, il y a un bien-être commun et auquel je dois contribuer, et ça passe par payer la TVA. Un deuxième point sur lequel je serais en rupture, c'est la compréhension même de l'action politique. Si vous entendez parler les libéraux ou les socialistes, le politique est un lieu d'un rapport de force, d'une lutte des classes d'une manière ou d'une autre, entre des partis qui disent qu'ils vont travailler, qui doivent défendre les intérêts d'une classe sociale défavorisée face à l'exploitation, et d'autres personnes qui disent nous devons défendre les intérêts des personnes qui créent et c'est pas de manière cynique, hein, on peut le dire de manière, les uns veulent défendre les intérêts des travailleurs parce que c'est eux qui sont en position de fragilisation, et les autres, on peut l'entendre de manière positive, ils veulent défendre les travailleurs de ceux qui créent la richesse, parce que c'est d'ailleurs comme ça qu'on va augmenter la taille du gâteau, et c'est mérité. Mais c'est l'idée même que le champ politique est un lieu où les partis sont là pour représenter des intérêts, et qu'on doit chercher un compromis entre des personnes qui sont là pour représenter des intérêts, et qu'on est dans un rapport de force avec laquelle il me semble devoir rompre pour concevoir le politique comme étant plutôt le lieu de recherche du bien commun, de délibération autour d'une définition du bien commun. Cela signifie que pour moi, si je reprends les deux catégories de base de l'exploitation et de l'aliénation, les deux catégories marxistes de base, la catégorie première, pour analyser la situation sociale dans laquelle on est, c'est la catégorie de l'aliénation et pas celle de l'exploitation. Nous ne sommes pas, me semble-t-il en tout cas, nous ne sommes pas dans un système qui est dominé par une élite, élite qui exploite. Une majorité. Nous sommes plutôt dans un système sur lequel nous avons perdu prise, dans un système qui est radicalement déshumanisant, sur lequel, en définitive, tout le monde est victime. Si je veux prendre le cas, de nouveau de manière caricaturale, le cas extrême est celui du cadre sous antidépresseur au bord de sa piscine et tout près de sa Jaguar. Une bonne caricature. Est-ce que c'est un exploitant ou une victime? Donc il est quand même sous antidépresseur, hein, donc c'est pour ça que je complexifie. Alors, mon analyse personnelle, c'est que le système est aliénant, donc je le vois davantage comme une victime, et donc comme quelqu'un qui est un allié potentiel pour une réforme sociale, plutôt que comme l'adversaire. L'adversaire qu'il faut combattre pour parvenir à réformer la société. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des situations d'exploitation. Le cadre, il va défendre sa Jaguar, il va défendre sa piscine, mais il va la défendre d'autant plus qu'il est aliéné et que c'est son opium du peuple, quelque part. Hein, donc ça. Et donc l'exploitation est seconde. Il y a des situations d'exploitation, d'accord, mais c'est un symptôme de l'aliénation. Mais donc la catégorie fondamentale, c'est l'aliénation. Et donc ce serait une erreur stratégique. C'est fondamental d'un point de vue de stratégie politique ce que j'esquisse là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le but du coup est de développer un discours qui ne fait pas de cette personne, de ce cadre, un adversaire à combattre, parce qu'alors on va renforcer les résistances. Et je ne suis pas sûr du tout que la réforme sociale sera favorisée, au contraire, en renforçant les résistances, on va surtout empêcher la réforme sociale. Il faut au contraire parvenir à développer un discours qui demande qu'on puisse reprendre en main sur le système, donc qui demande non pas le conflit, mais qui demande la coopération, la coordination pour parvenir à reprendre main sur le système. Ce pourquoi je qualifierais ma position de progressiste. Il y a une volonté de progrès social, de transformation de la société, mais d'un autre côté de centriste. Si je prends des catégories de gauche, alors si je définirais la gauche par la défense justement des, sous un axe d'exploitation des classes sociales exploitées, et la droite la défense des classes ayant le capital, non, je serais dans une position centriste, refusant justement la logique de l'exploitation, étant dans une logique au contraire, il faut chercher à remettre en place une conscience du bien commun et dépasser la lutte des classes. La conception de l'État, encore à mon avis une dizaine de minutes, ça va ? On m'avait dit une heure et demie, là je serai à 1h35. Enfin, jusqu'à la conception de l'État. Un renouveau du socialisme n'est pour moi possible, et finalement ça c'est une thèse socialiste assez classique, même si disputée au sein des courants socialistes, mais elle n'est possible qu'au niveau mondial, dans l'État actuel. Parce qu'il faudrait, ou alors, il faudrait refermer les économies sur elles-mêmes. Mais si on reste dans le cadre d'une économie mondialisée, un véritable retour du socialisme demanderait alors un État mondial, qui pourrait avoir prise sur la totalité un État, ou en tout cas une grosse coopération interétatique mondiale, qui pourrait reprendre prise sur l'ensemble de l'économie. Ou alors, il faut refermer les économies sur elles-mêmes. Mais, dans les deux cas, on reste, me semble-t-il, avec une conception de l'État, qui est également la conception de l'État libéral, mais qui me paraît, pour moi, caduque aujourd'hui, inadéquate. Je défends une conception de l'État qui serait pour moi à la fois peut-être plus ambitieuse et d'un autre côté moins fort. Un État plus ambitieux et moins fort. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que pour moi, un des traits caractéristiques, une des leçons les plus importantes de la mondialisation, c'est ce que j'appelle la périphérisation de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, de nouveau, prendre une métaphore éclairante, enfin que j'espère éclairante, c'est la fin de la métaphore de l'île. La métaphore de l'île, beaucoup de philosophes politiques, quand ils essayaient de penser l'État, ils le pensent d'abord comme un État au sein d'une île, donc d'une société fermée, ou alors c'est même le vaisseau spatial. Quel est l'État qui va parvenir à quels sont les principes qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir régir de manière juste une organisation sociale fermée sur elle-même. Puis dans un deuxième temps, on se dit, ah oui, l'île fait partie d'un archipel. Et alors on pense les relations internationales. Mais dans ce modèle-là, l'État, c'est un centre de régulation, doté du monopole de la violence légitime. C'est comme ça que les libéraux le pensent, en disant que justement, il doit être là d'abord pour assurer la sécurité. Même les libéraux de droite, ça doit être la police. Donc, c'est le monopole de la violence légitime. On remonte à Hobbes. Les socialistes ne pensent pas les choses totalement différentes. C'est bien la capacité de l'État d'être un centre de régulation, qui même se substitue au marché, qui vient l'encadrer, le contraindre, l'imposer, déterminer les relations sociales au sein de la société. Or, la mondialisation, elle signifie, me semble-t-il, que l'État n'est plus un centre de régulation. Il a été périphérisé, il est en périphérie. L'État cesse de constituer une autorité centrale singulière, occupant une position monopolistique, le monopole de la violence légitime, au centre d'une nation homogène dont il régirait le fonctionnement. Il ne constitue plus qu'un acteur particulier. Il faut penser déjà l'État au pluriel toujours. Il ne faut plus parler de l'État, il faut parler toujours des États. Pensez d'abord l'île et puis l'archipel. C'est une manière totalement erronée de penser le politique aujourd'hui. Il faut penser d'emblée l'État au pluriel, inséré dans des interactions avec donc d'autres États, mais aussi avec des institutions internationales, des organismes non gouvernementaux, des sociétés multinationales, des associations diverses d'individus, etc., etc. Il y a quelque part un glissement géométrique qui est à l'œuvre. Dans le modèle de l'île, dans le modèle national classique, l'État essentiellement d'abord des relations verticales au sein de la société, de verticalité, d'imposition, alors qu'il n'a ensuite que dans un deuxième temps des relations horizontales et avec uniquement d'autres États. Ici, non, c'est le niveau horizontal qui est déterminant, on est toujours dans un mixte entre les deux, mais la part de la dimension d'horizontalité prend de plus en plus d'importance au détriment de la dimension de verticalité. Et ça se traduit par l'affaiblissement de la capacité de contrainte de l'État. Capacité de contrainte, fonction de sanction, fonction de l'État comme monopole de la violence légitime, qui est l'essence même de l'État dans la vision classique de l'État. Pour moi, c'est une erreur de croire, en tout cas aujourd'hui, que c'est l'essence de l'État. Pour moi, c'est une fonction seconde. L'essence de l'État, au contraire, elle vient d'une toute autre fonction que j'appelle performative, qui n'est pas la capacité de sanction, mais la capacité de simplement dire, d'être un lieu de construction, de formalisation d'une volonté générale. L'État est le lieu par lequel, non plus un instrument de contrainte, un instrument de sanction, mais c'est le lieu où la société civile est formalisée, où le débat qu'il y a au sein, le débat constant, informel qui existe au sein de la société civile, à un moment donné se formalise dans une expression explicite, dans une éventuellement même dans une diversité, puisque le politique est un débat d'abord, une diversité d'expression, et puis à un moment donné, il y a une majorité qui vient exprimer une expression majoritaire, fragile, qui va être mise en cause, mais qui concrétise une volonté générale à un moment donné précis. Mais donc, c'est cette capacité simplement qu'a l'État de dire ce qui, le politique, de dire ce qui est estimé juste bien à un moment donné d'une société. Et simplement se dire a déjà une portée, a déjà une signification, indépendamment de la question seconde, qui est de savoir, ok, mais cette volonté générale qu'en tant que politique on vient d'exprimer, est-ce que cette volonté générale, on doit en imposer le respect de manière contraignante? C'est une question seconde. Est-ce que la sanction doit venir doubler l'énonciation? Ou est-ce que la simple énonciation est déjà signifiante? C'est dire que pour moi, quand je pense l'État, je ne pense pas le système bureaucratique, hein, je ne pense pas le fonctionnaire qui impose le respect de réglementation, comme c'est classiquement pensé, notamment dans la théorie critique d'inspiration socialiste. Je pense d'abord aux parlementaires en débat. Je pense que l'État, ce n'est pas le fonctionnaire qui impose un règlement, c'est le parlementaire qui débat qui participe à cette formalisation d'une volonté générale. Et c'est à la fois, d'abord c'est une nécessité, enfin, c'est un constat de l'affaiblissement du pouvoir de sanction de l'État dû à cette périphérisation, dû à la mondialisation, dû au fait que l'État, puisqu'elle n'est plus fermée, n'a plus la même prise possible sur les acteurs, et elle est fortement affaiblie par la mobilité des acteurs, et elle doit donc négocier, être dans des situations d'horizontalité, donc c'est à la fois un constat, mais pour moi c'est un constat qui est globalement positif. Un État trop fort continue à me faire peur, ça c'est ça c'est certain. Mais donc c'est en ce sens-là que mon État est moins fort, puisqu'il a sa capacité de sanction est nettement moindre. Mais du coup, il peut être beaucoup plus ambitieux, me semble-t-il, et notamment il peut être plus ambitieux parce qu'il a cette volonté générale, il n'a pas à se prononcer uniquement sur le juste. Il a aussi une mission essentielle, me semble-t-il, qui est d'essayer d'être un lieu de construction de valeurs. Donc ça, en général, on parle des normes de justice et les valeurs, ça se relève au bien. Donc une réflexion sur les valeurs, donc les conceptions du bien, ce que l'on doit... si je dis un gros mot même, la conception du bonheur que l'on entend promouvoir collectivement. Et il peut le faire précisément parce qu'il peut le faire simplement dans le dire, sans doubler ce dire d'une sanction. Je n'attends pas de l'État qu'il impose une conception du bien. Mais justement, puisqu'il, en dissociant son rôle performatif, son rôle de dire, de son rôle de sanction, je crois que l'État est aussi le lieu où on doit pouvoir s'interroger collectivement sur les valeurs qu'on entend promouvoir. Et j'ai parlé un tout petit peu des communautariens, je pense que c'est d'ailleurs une des grandes leçons de ce problème du multiculturalisme que l'on vit aujourd'hui. Donc, le multiculturalisme, c'est l'idée au niveau des cultures exactement la même que celle portée par le libéralisme au niveau des individus. Il faut assurer une juste coexistence, une coexistence pacifique des cultures, des groupes culturels au sein de la société. Il faut qu'elles puissent coexister et chacun rechercher leur propre réalisation, vivre conformément à leurs propres valeurs. Le problème, et ça vaut pour, ça explique énormément de choses sur la thématique du foulard, le rapport à la communauté musulmane, ça explique tout autant, me semble-t-il, sur le rapport entre le nord et le sud du pays. Le problème, c'est que lorsqu'on pense uniquement le multiculturalisme, non pas comme simplement un fait, mais également comme une valeur, il y a un moment donné où, à force de simplement coexister, mais sans dialoguer, on ne se connaît plus, on ne se comprend plus, et où, par exemple, le foulard... la communauté musulmane ne comprend pas la signification que peut avoir le foulard auprès d'un tout un certain nombre de femmes, je veux dire de souche occidentale, qui ont l'impression que c'est une régression par rapport à un certain nombre d'acquis qu'elles ont acquises depuis 40-50 ans. Et d'un autre côté, ces femmes de souche occidentale, ou même globalement, hein, la communauté belge de souche occidentale, ne comprend pas la signification qu'a le foulard dans cette communauté culturelle. Et on est dans l'incompréhension. Je ne parle même pas du nord et du sud du pays. Et donc à un moment donné, ce qu'il faut des Flandres, c'est une construction d'une interculturalité. Le politique a une fonction de reconstruction de valeurs partagées. Et il n'y a pas de politique aujourd'hui qui pourrait, enfin en tout cas ce n'est que s'il parvient à le faire, qu'il parviendra à retrouver une légitimité, qu'il parviendra à surmonter le déficit de confiance dont il souffre aujourd'hui. Il doit être un lieu de tentative de construction de valeurs communes. Alors, de nouveau, je ne crois pas qu'on pourra atteindre le consensus. Ce n'est pas tellement qu'il y ait un consensus sur des valeurs communes qui m'intéresse. C'est que l'on soit toujours dans une dynamique de recherche et de dialogue autour de ces valeurs communes. Et qu'on le soit d'autant plus dans cette dynamique de recherche qu'on sait qu'on n'y arrivera jamais. Parce que si on y arrivait, à un moment donné, on pourrait avoir peur qu'il y ait une majorité qui s'enferme sur ce consensus et veuille l'imposer. Mais non. Ce qui m'importe, c'est le dialogue, le débat, et que même si à un moment donné, à travers une loi inévitable, enfin à chaque fois qu'on prend une loi, il y a de manière sous-jacente l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, on sait que le débat va tout de suite pouvoir être relancé, rediscuté, re-questionné. Ça signifie donc pour moi que l'État doit être à la fois régulateur et stratège. Il doit être régulateur et stratège, stratège parce que justement il doit être porteur d'une vision de la société, d'une conception de la justice, mais aussi d'un certain nombre de valeurs qui relèvent du bien, et qu'il doit jouer sur sa capacité, donc pas pour l'imposer, mais il a une capacité d'agir et de façonner l'environnement dans lequel les interactions vont avoir lieu. Notamment, ça signifie qu'il a un rôle régulateur, et j'impose ce rôle régulateur à un rôle de réglementation que je renvoie au modèle plutôt bureaucratique d'un État caractérisé par le monopole de la violence légitime. Réguler, réglementer, alors que regulation en anglais peut se traduire par les deux, qu'on l'utilise un peu de manière indifférenciée. En fait, c'est deux choses totalement différentes. Réglementer, c'est mettre un panneau de limitation de vitesse. C'est efficace, hein, 50 km/h en ville, c'est efficace que s'il y a une caméra derrière, ou en tout cas la peur de la caméra derrière. Donc c'est efficace que s'il y a ce pouvoir de sanction possible. Réguler, c'est plutôt façonner l'environnement de manière à inciter à adopter les comportements adéquats. C'est donc le casse-vitesse. Là, c'est indépendant d'un pouvoir de sanction. C'est la manière dont les incitants sont créés. Là, on vous incite à ralentir, parce que sinon, à moins d'avoir une belle 4x4 et de gros amortisseurs, vous allez avoir un problème. Donc, je crois davantage, suite à la périphérisation de l'État, en l'efficacité de la régulation, que dans l'efficacité de la réglementation qui demande un appareil bureaucratique et une capacité de contrôle de sanctions très lourd. Et cette régulation, ça passe par... la fiscalité est un instrument puissant de régulation, ça, certainement. Ça permet d'internaliser les externalités, comme disent les économiques. Hein, les économistes, donc quand il y a une relation marchande privée, donc ça a une valeur d'échange, une valeur économique qui détermine en principe le prix sur un marché, mais cette valeur économique déterminée dans l'échange entre les deux personnes ne tient pas compte des répercussions de cet échange sur la collectivité. L'exemple par excellence, c'est les dégâts environnementaux. La fiscalité, notamment la fiscalité environnementale, permet d'essayer d'inscrire dans le prix du marché une partie, en tout cas, du coût environnemental et du coup d'inciter à modifier les comportements. Donc, ça, je pense que c'est typiquement des choses que l'État doit pouvoir essayer de faire aujourd'hui. Donc, il faut internaliser les externalités, mais ces externalités ne sont pas seulement économiques, elles ne sont pas environnementales, elles sont aussi sociales. Et je pense en particulier, par exemple, au rôle qu'a l'État pour soutenir ce que je vais appeler des emplois à haute valeur relationnelle ajoutée. Hein, bon, les économistes, toujours, ils parlent souvent des emplois à haute valeur ajoutée. Eh bien, moi, c'est important, c'est très important, c'est ça qui crée de la richesse. Mais il y a aussi des emplois à haute valeur relationnelle ajoutée, et qui ont donc une valeur sociale, en termes de lien social, en termes de cohésion sociale, beaucoup plus importante que leur valeur économique. Et ce sont notamment donc tous les emplois de service aux personnes, de service interpersonnel. Emplois qui sont aujourd'hui largement par, enfin il y a des demandes, des besoins qui correspondent en termes de services interpersonnels qui sont largement non rencontrés. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, et ça va l'être de manière encore plus considérable demain avec les conséquences du vieillissement des personnes, du choc démographique. C'est là, j'ai esquissé, et je terminerai sur ces mots, c'est notamment ces deux défis fondamentaux qui sont le réchauffement climatique et le choc démographique, qui sont à la fois des défis, et potentiellement porteurs de crise, mais qui sont aussi toujours des opportunités. Et je pense que ce sera dans notre capacité à mettre en œuvre, une réponse à ces deux défis-là, à s'en servir comme levier, qu'on peut espérer construire une société de l'après-crise qui soit ce que je vais appeler une économie et une société à visage humain. Je vous remercie.